17h sur Fréquence Mistral, l'heure de retrouver les poèmes du lundi, cette émission mensuelle proposée, préparée et animée par Sophie Laurence. Bonjour Sophie.
Bonjour, bonjour.
Voilà, aujourd'hui une émission particulière sur la poésie.
C'est une émission qui s'appelle...
Qui parle de la poésie, mais aujourd'hui ça va être traité d'une autre façon.
Oui, c'est-à-dire que ça sera beaucoup plus une réflexion, parce que sur de l'utilité de la poésie, de signification, etc., etc. Voilà. Donc, nous allons commencer tout de suite par quelques vers, n'est-ce pas ? Voilà, donc, trouver des mots à l'échelle du vent... Trouver des mots qui pratiquent des brèches, dans le sommeil comme au soleil levant, des mots qui soient à nos soifs une eau fraîche. Trouver des mots forts comme la folie, trouver des mots couleur de tous les jours, trouver des mots que personne n'oublie, feu pour l'aveugle et tonnerres aux sourds. Avec des mots à l'échelle du vent, avec des mots notre amour se fonde, avec des mots comme un soleil levant, avec des mots simples comme le monde. Voilà, ça, quelques vers de Aragon. Donc, oui, la vie des poètes dans la majorité des bibliothèques de France est inexistante. Dans les librairies, il est rare de trouver un rayon poésie, ou alors mêlé à d'autres valeurs, au théâtre, par exemple. Alors, la poésie, c'est très vaste, c'est tellement vaste qu'on a du mal à la décomposer. Mais enfin, il y a deux sortes de poésie. C'est la poésie parole, qui est un art populaire, on peut dire, et la poésie écriture, qui est un art plutôt aristocratique. Voilà pourquoi. Alors, la chanson poétique, elle ne peut pas sauver la poésie. La poésie, c'est d'abord la parole, la scansion, la mémoire. Donc, la chanson n'a rien à voir, on peut dire, avec la poésie. Enfin, de cette poésie-là, qui est la vraie. Donc, pour les lecteurs sensibles, l'usage de la poésie est une culture profonde de l'être. Une quête, une manière de philosophie essentielle. On a souvent dit que l'âge d'or de la poésie était l'adolescence, celle qui est recherchée par les jeunes et celle qui exprime les sentiments inexplicables. La révolte anarchisante, par exemple, avec Prévert, Boris Vian, ou alors, ce qui est encore plus profond, inexplicable, Verlaine, Baudelaire, etc. Enfin, il faut rechercher, c'est passionnant. Chez ceux qui aiment la poésie, la proportion des travailleurs reste infime. Celle de paysans, presque nulle. Et pourtant, on en a entendu parler à l'école de la poésie, La Fontaine, Victor Hugo, Lamartine, etc., qui sont les seuls acquis scolaires de la poésie que les gens ont la plupart du temps. Surtout le peuple, surtout les gens qui travaillent. Et donc, elle apprend à réciter un poème, ce qui est plutôt barbant. Et c'est considéré d'ailleurs comme rébarbatif par les enfants. Et c'est à juste titre, parce que ce ne sont pas des mots, des paroles, ni des pensées qui débitent. C'est quelque chose d'automatique, de mécanique. Un peu comme aujourd'hui, on peut voir dans les écoles musulmanes ou même de toutes les écoles, les enfants réciter en se balançant comme ça. Et c'est très, très ancien, cette façon. D'ailleurs, on peut dire que la première fois qu'on a scandé des mots, ce n'est pas du tout ni pour la religion, ni pour la profondeur de la pensée. C'est ça qui est intéressant. Voilà, donc... Alors... Moi, j'ai fait une expérience avec des enfants très jeunes qui ne savaient pas lire, et c'était très intéressant de voir comment ils apprennent bien la poésie. Pas obligatoirement par l'écrit, parce que l'écrit n'indique pas le son, n'indique pas le ton, n'indique pas. Donc, C'est une autre méthode que j'ai beaucoup pratiquée et j'ai fait beaucoup de découvertes là-dessus. D'ailleurs, quand je lis la dernière fois, c'est une émission sur Aragon, j'ai rappelé qu'Aragon n'avait jamais appris à écrire. Il a refusé. Mm-hmm. Très intéressant. On ne va pas approfondir la question parce que c'est très vaste. Bon, voilà. Donc, c'est la poésie, ce n'est pas facile. Non, ce n'est pas facile. C'est même des fois codé. Il y a d'ailleurs de la poésie obscure, trobar clous, hein, en occitan, trobar clar, trouver clair, hein, en occitan. Donc, ça, il y a, donc, depuis très longtemps, il existe des deux formes de poésie très compliquées et puis une beaucoup plus directe. Voilà. Mais pour découvrir la poésie, il faut vaincre toutes les aliénations et toutes les ignorances. C'est un boulot, ça. Que la poésie puisse renaître. Et puis ensuite, une poésie du monde, avec son histoire, ses légendes, comme l'ABC de notre civilisation. Bien sûr, il y a une sorte d'évolution à connaître pour mieux comprendre la situation de la poésie aujourd'hui. À l'origine, ce furent des formules rituelles, la généalogie des dieux ou des héros, des chronologies différentes, des caractères communs de cette poésie archaïque pour la magie. La magie, ce qui était aussi une sorte de pendule. Parce que le temps de la récitation qui devait se dire sur certains rites, ça, se préparait les potions ou les magiciens enfin, de l'époque, l'alchimiste. Donc on a retrouvé beaucoup de textes rythmés comme ça. Et ça, oui, c'était donc... La poésie, c'est quelque chose qui est une sorte de manière de compter. C'est d'ailleurs, on y en parlera de ça. Donc c'est la transmission des rites, les connaissances agricoles, les connaissances nautiques pour pêcher, pour naviguer. C'est la mémoire orale qui est que ça. Pendant des siècles, on n'a qu'une mémoire orale. Donc il fallait une mémoire qu'aujourd'hui, on a moins besoin. Puis enfin, avec tous les appareils qu'on a, on n'a plus à faire aucun effort de quelque façon que ce soit. Il faut réfléchir à ça. Alors, les mnémotechniques... Formule prononcée pour l'alchimie, ce que j'ai dit tout à l'heure, technique pas née pour le plaisir, mais comme l'outil, un outil. Et puis peu à peu, il y a eu un changement d'usage de la destination de cet outil. D'abord, outil de mémoire pour la transmission et les paroles. Puis l'essence d'une création sous forme d'une syntaxe ou la phrase est proposition impersonnelle, uniforme, qui crée un récit monotone, répétitif, qu'on entend encore aujourd'hui, s'incarnant dans les images. Dans la poésie, l'image est primordiale, pas l'image télévisuelle, cinéma, non, l'image intérieure, hein, l'image qu'on peut percevoir, mais enfin qu'on exprime. Donc, c'est pas logique le plus souvent, mais c'est une réalité nouvelle. Une image poétique qui résiste à l'explication logique. La poésie, véhicule privilégié de la magie orale. Elle n'a pas de valeur ésotérique. Les paroles sont fonctionnelles et nécessaires. Ainsi, le chant, un chant Haoussa du Niger. C'est la flatterie au poison Kusama. Un poison. Hein. Alors, ça commence... je n'ai pas les tambours, parce que c'est fait avec beaucoup de percussions. Là, le poison fait tourner la tête. L'entrave empêche de partir. Si on a lancé la flèche, et si la flèche frappe juste, c'est comme la mouche du cheval, la mouche qui a piqué un cheval... piquera un autre cheval. La flèche est pareille à la femme enceinte. Elle aime la viande, Même si la flèche ne perce pas le flanc, on meurt. Si elle perce un peu, on meurt. Si elle entre bien, on meurt. Si elle touche à peine, en retombant, on meurt. Voilà, c'est une, comment un poison est décrit dans sa... Ça doit être beaucoup plus long que ça. Voilà, c'est un petit extrait. Voilà, donc c'était une façon de transmettre la connaissance. Voilà, donc c'est une parole en action. Dans la prière aussi, la forme poétique de la prière est une nécessité pour la mémoire. Là où les fidèles devaient intervenir, par exemple à la mélodie, le côté récitatif, ou genre après il y a eu les grégoriens, mais avant, la mélodie liturgique était conçue sous une forme très simple, entièrement syllabique. Chaque syllabe ne supportait qu'une note, quelquefois deux, afin que la modulation n'offre pas de difficultés pour des gens qui ne recevaient aucune éducation spéciale. C'est-à-dire tout le monde pouvait le faire. Ce qui est un peu aujourd'hui, mais enfin on a des petits livrets, tout ça. Bon. Le syllabisme est un moyen de transmission orale, employé pour des populations analphabètes. Des conditions sociales et les exigences musicales de la prière en commun ont contribué en partie à la naissance d'un langage poétique. Que nous retrouverons quand la poésie devient langage autonome, pendant aussi son caractère liturgique. Il y a un roman extraordinaire qu'il faut, je voudrais le trouver, mais lire un roman qui s'appelle « La mort de Virgile » de Hermann Brock, publié chez Gallimard. Voilà, je vous conseille. Les philosophes Parménide, Empédocle, exprimèrent en vers leur système philosophique. D'ailleurs, Molière avait traduit Lucrèce tout en vers. Et dans un jour, je ne sais pas, j'ai dit de le raconter déjà. Un jour, dans une colère, parce que son valet avait utilisé les pages pour faire des papillotes de sa perruque, il a tout brûlé. Voilà, donc, on n'aura jamais cette œuvre en vers. Je crois bien qu'il est le seul à l'avoir fait. Dommage, parce que c'est passionnant. Voilà, donc, voilà. Donc, il y a bien d'autres philosophes qui ont écrit par vers. Les hommes qui découvrent aujourd'hui un monde réel plus fascinant que bien des mondes imaginaires attendent de la poésie d'autres plaisirs que des leçons de choses. Dès la plus haute antiquité, les moments les plus remarquables de la vie individuelle et collective ont été célébrés par la parole rythmée. Je vais vous donner une complainte pygmée sans le rythme percussion. Alors, c'est une complainte pygmée qui accompagne le geste du travail. D'ailleurs, il y en a beaucoup quand ils coupent un arbre. Un Africain, disons, natif, il demande pardon. C'est très beau, j'ai déjà entendu. Mm-hmm. Il demande pardon à l'arbre qu'il va couper. Il explique pourquoi, ce qu'il va en faire. Un tambour, de différents objets, enfin, tout ça. Et il lui demande pardon de le tuer. C'est vraiment touchant. Et aujourd'hui, on devrait s'en souvenir. Oui. Voilà, donc, ces mondes imaginaires, maintenant, ça rentre dans le réel. Et ça, très intéressant aussi. Surtout quand on découvre ce qu'est l'univers de plus en plus chaque jour. Il y a de quoi inspirer les poètes. Donc, les moments les plus remarquables de la vie individuelle, voilà, c'est le rigolage. Alors, ce langage pygmée. L'animal court, il passe, il meurt. Et c'est le grand froid. C'est le grand froid de la nuit. C'est noir. L'oiseau vole, il passe, il meurt. Et c'est le grand froid. C'est le grand froid de la nuit. Le poisson fuit, il court, il passe, il meurt. Et c'est le grand froid, c'est le grand froid de la nuit. L'homme mange et dort, il meurt. Et c'est le grand froid, et c'est le grand froid de la nuit, c'est le noir. Voilà, c'est un poème pygmée. On ne comprend pas toujours ce qu'ils disent. Donc, il y a un jeu sur la répétition du mot, de mot noir, nuit, mort. Hein, c'est assez fort. Voilà. Donc, aussi, on peut briser les mots. Les mots eux-mêmes et les inventer. On peut briser d'autres mots, inouïs, créer des mots et un langage. Et il y a un poète, Michaud, et qui, lui, a fait, il est très connu pour ça, et puis pas que lui. Il l'emparouille et l'endosque contre terre. Il le rague et le roupette jusqu'à son dral. Il le pratelle et le libuque et lui barufle les houillets. Il le torcade et le marmine, la raparie et réparera. Enfin, il les corcobali, balise, babise. L'autre hésite, s'espadrine, se défaisse, se torse et se ruine. Ce sera bientôt la fin de lui.
Alors, ce sont des mots inventés.
Oui, des mots, ce que j'appelle les mots brisés, les mots pris. Ou retravailler. D'ailleurs, Jean Tardieu aussi a écrit toute une comédie qui s'appelle Un mot pour un autre. C'est une petite simple, un petit vaudeville banal, mais alors c'est tordant. C'est tordant parce qu'on comprend tout. Mmh. Et pourtant, les mots n'ont rien à voir. Je ne sais pas, tu as peut-être. On étudie beaucoup ça dans les écoles, même dans les écoles primaires. Et ça amuse beaucoup les enfants qui adorent ça. Bon, chaque grand poète crée en même temps que son propre univers. Son propre langage. Donc, ça c'est plus du tout collectif. C'est pour ça qu'il y a aussi un individualisme qui se développe. Jean-Paul Sartre pense que le propre des poètes est qu'il refuse d'utiliser le langage. En fait, le poète s'est retiré d'un coup du langage instrument. Il a choisi une fois pour toutes l'attitude poétique qui considère les mots comme des choses et non comme des signes. C'est très intéressant ce qu'écrit Sartre dans Les mots. Il faut lire ce livre. Sartre dit encore « le parleur » et dans le langage « investi par les mots ». Ce sont les prolongements de ses sens, de ses pinces, ses antennes, ses lunettes, et les manœuvres du dedans, il les sent comme son corps. Dans son corps, il est son corps. Il est encore entouré d'un corps verbal dont il prend à peine conscience et qui étend, élargit son autorité sur le monde. Voilà. Et ça, je trouve que c'est un peu appuyé. C'est développé, hein, il y a beaucoup plus à lire.
Voilà, donc... Oui. Est-ce qu'on fait une pause musicale justement rythmée? Tu me demandais tout à l'heure des percussions.
Oui. Oui, pourquoi pas.
Voilà, les percussions du trio Chemirani.
C'est normal, c'est une percussion de la parole chez eux. Le langage considéré comme une fin plus que comme un moyen. Mais ils ne doivent pas oublier que les mots gardent leur toute leur fonction, malgré tout, fonction de communication. Pas l'oublier. Paul Éluard pense, alors Paul Éluard, il a écrit beaucoup sur l'art poétique, c'est fabuleux, c'est le plus grand, je peux dire, à ce niveau-là, avec Aragon. D'ailleurs, tous les deux, ils sont aussi importants, je dirais. Donc, Éluard pense que le jeu poétique est un mensonge qui sert la vérité. Marchand d'histoire, marchand de vent, enjoliveur ou débineur, hableur, gausseur, archimenteur, langue ferrée à glace et visage impassible, causeur et bavardin, faiseur de châteaux en Espagne, amuseur à la moutarde et décrasseur de rêves, grand vernissage de faits, enjoliveur de roses et écraseur de crottes, tous les arrache-dents et les barons de crack, les charlatans, les attrapeurs, fanfaronnards, goureurs, farceurs, colleurs, forgeurs, enjôleurs, les chevauchants, les chevaucheurs de monts et merveilles, les conteurs à dormir debout, sous de faux planchers, sous de fausses couleurs, poètes, passant par le nième degré de fièvre pour en revenir à zéro. Petit poète généreux, donnant à boire aux grands poètes dénués, et ce qu'ils veulent nous faire prendre pour argent comptant provoque affrontement, oui, la vérité. Effrontement aussi, qui a si souvent tant de mal à sortir de son puits. D'ailleurs, Pablo Neruda, il a un passage, on le ressortira à l'occasion quand il parle de ce puits, justement. C'est très fort comme il parle de ce puits. Paul Éluard poursuit les sentiers et les routes de la poésie. Donc, par une comptine, l'enfant saute à pieds joints par-dessus le monde, sur mesure, dont on lui enseigne les rudiments. C'est Éluard qui dit ça. Il jongle délicieusement avec les mots et s'émerveille de son pouvoir d'invention. Il prend sa revanche, il fait servir ce qu'il sait au plaisir défendu d'imaginer, d'abuser. Bon. Les comptines sont, comme leur nom l'indique, des formulettes qui servent à compter, afin de désigner celui des joueurs qui tiendra le premier rôle ou le dernier dans le jeu. Et mais c'est très très ancien. C'est, la comptine, c'est, je ne sais pas comment les enfants le sortent, je ne sais pas comment, d'où ça vient. Est-ce que c'est anonyme? Je pense que c'est dans... Mais c'est très 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 primitif. Alors c'est une désignation par le hasard, une puissance occulte, reconnue par tous, chargée d'une décision oraculaire. Vous voyez, hein? Alors, 1, 2, 3, la culotte en bas. 4, 5, 6, levez la chemise. 7, 8, 9, tapez comme un bœuf. 10, 11, 12, j'ai les fesses toutes rouges. 13, 14, 15, mettez-lui un linge. 16, 17, 18, mettez-le tout de suite. Rythme sonore, avec vous. Il y a une rime aussi qui revient, hein. Rythme sonore produit par la rime ou l'assonance. Les mots mal compris, ça c'est amusant. Michel Léris, entendant les enfants les prononcer, rappelle que les parents entendent leurs parents prononcer et que les enfants déforment ce qu'ils entendent, comme beaucoup de choses, beaucoup de gens aussi dans la vie. Et alors ça donne des choses amusantes, quoi. Par ses parents, d'autres adultes dépourvus de signification, les métamorphosent. Alors, par exemple, ton tétatil ou tétatou. télé-tunestel, si télé-tunestel. Voilà. Donc, vous voyez, c'est un plaisir phonétique parce que pour qu'on le trouve, que l'on trouve chez les très grands poètes. Donc, les enfants, les grands poètes, ça se rejoint. Ces mots psalmodiés sont un plaisir de culture, un jeu pur, sérieux, comme tous les jeux. Abracadabra, Capitum Nostrum, Carillon, Cathedra Nostra, etc. Amstram, Gram, Piquet-Pic, une souris verte, enfin bon, on connaît tous ces trucs. Voilà. Il y a aussi une petite chose très jolie. Trou ! Une petite cerise au bord d'un ruisseau lève sa chemise, fait pipi dans l'eau. La cerise, c'est pas... Voilà. Donc... Seule la poésie demeure alors comme la citadelle d'un jeu florissant. Huizinga, qui est un philosophe néerlandais, disait encore « Les mouvements lyriques modernes qui évoluent dans le domaine du difficilement accessible et celle la signification dans un verbe énigmatique demeure par là fidèle à l'essence même de leur art. » La poésie, langage de la mémoire, devient art du langage. La poésie n'est pas un fait culturel mystérieux et secret. Elle est un produit de l'homme destiné à des hommes. C'est très lentement que la poésie est devenue de plus en plus la poésie. Nous allons d'ailleurs dire un poème de Norge qui s'appelle « La pêche du poème » de Norge. Vous connaissez Norge un peu ?
Oui, puisque vous en aviez fait une émission.
Oui, effectivement. Effectivement. Et j'adore ce poète. C'est, d'ailleurs, bon. Alors, l'heure, comme tout et tous, mais je goûte quand même, belle, la belle tentation de dire. Oh, si confusément tiré des limbes cérébraux, poème, poisson un peu étrange et féerique à travers les rutilances de l'aquarium et la cohue de l'eau. Scintille et sois né. Oh, voici la phrase, illusion d'optique si fièrement et drôlement indigente et non dite. C'est tout. Voilà, c'est très court, mais... C'est à réfléchir. Donc, Norge, il a écrit des choses tout à fait étonnantes à lire, à dire, à dire. Et mon fils, il m'a annoncé hier qu'il apprenait presque tout un livre de Norge. c'est très beau à dire, c'est très agréable. En plus, ça amuse. C'est, les gens sont heureux. Voilà, donc... Alors, nous avons aussi Desnos. Desnos. Donc, Homère, Nerval, Hugo, Rimbaud, Baudelaire, Mallarmé survivent parce qu'en eux vit d'abord quoi ?
La poésie.
Voilà, la poésie. Voilà. Donc, Nerval. Alors, un poème que j'aime beaucoup. D'ailleurs, j'aime beaucoup Nerval. J'avais fait tout un festival sur Gérard de Nerval à Senlis, dans sa région. Ça avait eu beaucoup de succès. J'ai fait ça pendant 3 mois, pendant un festival d'été qui se répétait tous les 15 jours. Alors, un poème que j'adore, c'est El Desdichado. Je suis le ténébreux, le veuf, l'inconsolé. Le prince d'Aquitaine à la tour abolie. Ma seule étoile est morte. Et mon luth constellé porte le soleil noir de la mélancolie. Dans la nuit du tombeau, toi qui m'as consolé, rends-moi le posilipe et la mer d'Italie. La fleur qui plaisait tant à mon cœur désolé est la treille où le pampre à la rose salit. Suis-je amour ou Phébus, Lusignan ou Byron? Mon front est rouge encore du baiser de la reine. J'ai rêvé dans la grotte où nage la sirène. et j'ai deux fois vainqueur traversé l'Achéron, modulant tour à tour sur la lyre d'Orphée les soupirs de la sainte et les cris de la fée. C'est les cris de la fée. Le poème est l'amour réalisé, réalisé du désir, demeuré désir, désir insatiable en fait, qui d'ailleurs est très important pour la vie. Où est-ce que j'ai la poésie, donc Desnos, voilà. Alors là, Desnos, c'est la prairie du Revenez-y. La prairie du Revenez-y. Je l'aime bien, celui-là, il est amusant. Revenez-y, les vieilles. Allez-y, les jeunes. Les arbres grandissent jusqu'à la lune. Les arbres vieillissent comme les jeunes et meurent comme les vieilles. Ainsi va la vie, les vieilles. Ainsi va la vie, les jeunes. Les joues d'abricots se rideront. Les joues se rideront comme les joues des vieilles. Et les larmes sur elles couleront. Ainsi vont les baisers des vieilles, ainsi vont les baisers des jeunes. L'éclair des beaux yeux s'éteindra, comme s'éteint la flamme des bougies vieilles et la cire, comme les larmes coulent. Mais jamais ne mourra l'amour. Oh, vieille! Jamais l'amour ne mourra au cœur des jeunes. Toujours l'éclair rayera. N'importe quelle rage, quel orage, la flamme de la vie et de l'amour toujours rayonnera dans les profondes ténèbres. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Jamais ne mourra la couleur de vos joues. Pousse le blé, le bleuet et l'ivraie et la rougeur des baisers à vos coups. Rien ne meurt. La mort n'est pas vraie. Revenez-y, revenez-y. Bon, la poésie ne cherche pas à expliquer, mais à comprendre, comprendre, dans le sens prendre aussi, avec. C'est un plaisir de connaissance qui n'enseigne pas, ou plus, ou plus du tout même. Elle est l'art des lumières. Elle débloque le monde de l'imaginaire. Elle n'est pas un instrument de liberté. Elle est liberté. Paul Éluard, d'ailleurs, termine son grand poème « Liberté » par cette petite strophe. Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis né pour te connaître. Pour te nommer Liberté, Liberté. Plaisir poétique si fou, si complexe, si tragique qu'il soit, est un plaisir de fraternité. Alors je vais vous dire justement à propos de ça, la fraternité au niveau des enfants, ça s'appelle la croisade des enfants. C'est un peu connu, je ne sais pas. Tu connais ?
Non ? Je ne sais pas si vous ne l'aviez pas lu.
Oh, ça m'étonne.
Non ? Je ne sais plus.
La croisade des enfants ?
Je ne sais pas, on va voir.
Oh, c'est un long poème. Mm-hmm. Ah, c'est un peu long, hein ? En Pologne, en l'an 39, il y eut une grande bataille qui fit des villes et des villages de grands déserts. Le frère perdit sa sœur, l'épouse, l'époux, entre les flammes et les ruines, l'enfant ne retrouva ni père ni mère. De Pologne, plus rien n'est venu, ni lettres, ni nouvelles de journal, mais dans les pays de l'Est, on raconte une étrange légende. La neige tombait quand on parla dans une ville de l'Est d'une croisade d'enfants qui avait commencé en Pologne. Des enfants qui avaient faim trottaient par petits groupes sur les grands chemins. Ils en amenaient d'autres qui vivaient dans les villages détruits. Ils voulaient fuir les batailles et tout ce cauchemar et trouver un jour un pays où régnait la paix. Ils avaient choisi un jeune chef qui avait un grand souci. Il ne savait pas le chemin. Une fille de 11 ans traînait un enfant qui en avait 4. Elle avait tout d'une mère, mais pas de pays où régnait la paix. Un petit juif marchait avec eux. Il avait un col de velours. Jadis, il avait mangé du pain très blanc et s'était très bien battu. L'un d'eux, fort maigre, avait la mine grise. Il se tenait à l'écart. Il portait en lui un crime terrible. Il venait de l'ambassade nazie. Il y avait un chien. On l'avait attrapé pour l'abattre. On avait manqué de courage. On l'avait amené, une bouche de plus à nourrir. Là, il y avait une école et un jeune maître de calligraphie et un élève près d'un tank éventré qui avait appris à écrire la moitié du mot « paix ». Il y avait aussi un grand amour. Elle avait 12 ans et lui 15. Dans une cour bombardée, elle lui peignait les cheveux. L'amour fut impossible car les grands froids étaient venus. Comment les arbres peuvent-ils fleurir si tant de neige les recouvre? Il y eut aussi l'enterrement d'un garçon au col de velours que portèrent 2 Allemands et 2 Polonais. Protestants, catholiques, nazis, ils étaient tous là pour le mettre en terre. Et à la fin, un jeune communiste parla de l'avenir des vivants. Il y eut de la foi et de l'espoir, mais ni viande, ni pain. Que ceux qui leur refusèrent un toit ne les grondent pas s'ils ont volé. Et que personne ne gronde le pauvre homme qui ne les invita pas à sa table. Il leur fallait à tous ces enfants de la farine et non seulement de la bonté. On dit qu'ils allèrent vers le sud. Le sud, c'est là où le soleil se trouve à midi, tout droit devant soi. Ils trouvèrent bien un soldat blessé sous un sapin. Ils le soignèrent pendant 7 jours pour qu'il leur montre le chemin. Il leur dit « Allez vers Bilgoret ». Il eut une forte fièvre et mourut au 8e jour et lui aussi l'enterrèrent. Il y avait bien des plaques et des poteaux, mais ils étaient couverts de neige. Ils ne montraient plus la direction. On les avait tous retournés. Non pas par mauvaise blague, mais pour des raisons militaires. Ils cherchèrent Bilgoret. Ils ne trouvèrent rien. Ils étaient là autour de le chef et regarda dans l'air par-dessus la neige, pointa sa petite main. Il dit « Ce doit être là-bas ». Une fois la nuit, ils virent un feu, mais ils l'évitèrent. Une fois, 3 tanks s'en vinrent rouler et il y avait des hommes dedans. Une fois, ils arrivèrent près d'une ville, mais ils firent un détour. Ils ne marchèrent que la nuit jusqu'à ce qu'ils l'eurent dépassé. Là où se trouvait la Pologne du sud-est, dans une forte tempête de neige, on les a vus tous les 55 pour la dernière fois. Quand je ferme les yeux, je les vois errer d'une ferme bombardée à une autre ferme bombardée. Au-dessus d'eux, là-haut, dans les nuages, je vois d'autres cortèges et ils sont longs. Et des hommes sans patrie, des hommes sans nord ni sud luttent contre les vents froids à la recherche d'un pays en paix, sans tonnerre, sans incendie et non plus comme celui d'où ils viennent et le cortège se fait interminable. Et à travers les ombres, il ne me paraît plus tout de même, tout à fait le même. Je vois d'autres petits visages, espagnols, français, asiatiques, en Pologne, en ce chemin. Dans ce chemin, en janvier là, on attrapa un chien. Et à son maigre cou pendait une pancarte. avec ces mots. Aidez-nous. Nous ne savons plus le chemin. Nous sommes 55. Le chien vous conduira. Si vous ne pouvez pas le suivre, chassez-le, ne tirez pas sur lui. Lui seul connaît l'endroit. L'écriture était d'un enfant. Des paysans l'ont lu. Depuis un an et demi a passé, le chien mourait de faim. C'est Bertolt Brecht. Ça, c'est... Qu'est-ce que j'entends ? Pourquoi est-ce que j'entends ? Je vais dire un poème de mon ami Jean Marcenac, qui n'est plus d'ici, n'est plus ici dans ce monde. C'est un grand personnage qui vivait à Saint-Denis et qui a beaucoup suivi mes débuts de théâtre, mes débuts de diseuse de poésie. Et c'était un résistant très important. Il a vécu toutes sortes. C'était un grand ami de Aragon, de Pablo Neruda et d'autres, bien sûr. Voilà, donc je lis un poème qui s'appelle « La gueule du loup ». Mais, enfin, c'est un peu lié au jeu de cartes, mais je ne fais pas d'explication là-dessus. Ceci n'est pas de moi, c'est de la poésie. C'est une statue d'eau dans un lac de flammes, dans le feu et d'ombre dans la nuit. Je ne sais pas ce que c'est que la poésie. Je le cherche. C'est peut-être la pauvresse aux mains de noisettes, aux mains délicieuses de pain béni. Un homme enrubanné des herbes de l'étang que tu croises dans les couloirs de ta maison. Un insecte qui meurt dans un cercle de feu de paille. La poésie comme une flamme irrésolue. La poésie comme une femme qui s'avance. Belle, lasse, qui lève très haut les genoux et qui s'élance et qui retombe épanouie. Stupéfaite par le vent. La poésie pose sa tête sur la table comme un arbre, comme un homme entre dans la mer avec des béquilles. C'est la poésie de jeter le masque et de garder la cognée pour des temps meilleurs. Les hommes attaquent leur ombre dans la rue. Tu te promènes dans la ville avec tes rêves, que tu chasses devant toi à coups de fouet comme des armes. Et tu médites la parole de cet homme qu'il faut taper, taper sur les têtes. Les femmes gardent leurs yeux clos. Tu chantes la chanson de marche. Est-ce que je vais mourir là? Est-ce que tu vas mourir là? Là, là, là. Est-ce que l'on va mourir là? Ouah, 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 chien, cheval, ver de lampe, je vais mourir. Mais maintenant, je n'ai plus peur, je n'ai plus d'elle. J'ai connu un astronome martiniquais, il n'allumait jamais de lampe, il s'appelait La Mèche. Et les astres lui suffisaient. À d'autres de poursuivre une femme blessée avec leurs mains de poussière et de pitié. À d'autres d'atteler et de dételer le petit char du moindre amour. À d'autres la belle vie et son décor de chair et d'ongles. À d'autres la vie et le sort comme une mauvaise habitude. Lassitude coupable. Il faut faire un sort à la vie. Lassitude coupable. Voici la main du jour. Voici son visage d'un sou. Pourtant, je ne demande pas l'aumône. Courage. Oui, c'est bien mon dernier mot, courage. Mes chers oiseaux aux ailes peintes qui trouvaient de l'or dans la rue. Patient, obstiné, pas à pas, ridicule et si triste, si courageux. C'est un oiseau qui s'enfuit devant l'incendie d'un jardin. C'est un petit fait. C'est une petite fille qui danse. Une épopée pour les enfants. C'est un cri d'homme inutile si la guerre est pour demain. C'est tout le temps la même femme avec son cœur à vol d'oiseau, son esprit de carte muette. La véridique, la rusée. Elle pleure les yeux ouverts. Elle meurt au moindre reproche. Elle célèbre à sa cloche de terre une victoire minuscule, un triomphe de Locke. Au pays de la poésie, les hommes de la liberté y mènent la vie du sang séché, la vie entre eux et le monde. Ils ne sont plus au goût du jour, ils ont la manie de l'oubli. Ils halètent sous la menace du soleil. Ils ont plusieurs heures d'avance sur le sort qui les attend demain. La pauvreté, la prison, rien n'y fait. Cette flamme monte plus haut que l'habitude. Alors il fait clair, il tombe de l'eau. Il y a la faim dont on a tant parlé, qui fait sortir les loups de la forêt. Il y a aussi la poésie comme une énigme toujours résolue à résoudre, la poésie comme une époque incontredite, un air de contradiction, comme un bouclier de velours pour entrer dans les maisons vides défier la mort, comme un blessé perdu dans une montagne de verre qu'on achève à coups de feu d'artifice. La poésie autant en emporte le vent. La poésie dans sa maison qui ressemble à tous les visages, comme une victoire sans lendemain, comme un piège contre l'absence, comme une épée pour les quatre saisons. Ce n'est pas de moi, c'est de la poésie. C'est une statue d'eau dans un lac de flammes dans le feu et d'ombre dans la nuit. Jean Marcenac, d'une grande modestie. Qu'est-ce qu'on entend ? On entend aussi des souffles. Peut-être ta respiration passe dans le micro. J'en sais rien, je ne sais pas si c'est le mien. Ça fait un drôle d'effet, ça me trouble. Bon, pour atteindre l'existence poétique, il est nécessaire que les sentiments, la joie et la peine soient portés à un certain degré d'incandescence. Mayakovsky. Pour atteindre l'existence poétique, montons, poètes, à la hauteur des aigles. Chantons dans les grisailles du monde. J'y verse, moi, mon soleil à moi, toi le tien. En vers. Le temps s'en va, le temps s'en va, madame. Il faut s'enivrer de poésie, émerveillement, gaieté, de l'amour, de l'absurde, de l'humour, de la violence et de la tendresse. Problème. La dialectique de l'impossible présent. Ah ça. Nous au théâtre, on le sait ça. On le vit chaque fois que l'on joue sur scène. Parce qu'on est dans un présent, passé, futur. Jamais on est au moment là. Et en même temps, on est là. Difficile, difficile. Enfin, c'est un peu comme dans la vie. La poésie lutte contre le temps et contre la mort. Comme le parfum, d'ailleurs. Écoutons. Rainer Maria Rilke. Rainer Maria Rilke dans la mort du poète. Il gît son visage redressé dans les couloirs rigides, pâle et plein de refus. Depuis que le monde et tout ce qu'il en sut, arraché à ses sens, fut rendu à l'indifférente année. Ceux qui l'ont vu en vie ne surent combien il s'unissait à tout ceci, car toutes ces profondeurs et ces prairies et toutes ces eaux ne furent que sa figure. Oh, sa figure fut toute son étendue, qui encore tend vers lui et qui le pleure, et son masque qui maintenant, en inquiétude, se meurt, est tendre, ouvert comme à l'intérieur d'un fruit qui se gâterait à l'air. Rainer Maria Rilke. Maintenant un petit peu à Desnos. Desnos aussi, qui est une merveille. D'ailleurs, on fera une émission sur ce poète. C'est l'histoire d'une ours. D'une ours. L'ours, enfin, devinez. <C'est>... Une ours fit son entrée dans la ville. Elle marchait pesamment et des gouttes d'eau bruyaient sur son pelage comme des diamants. Elle marcha méconnue. Elle marcha dans les rues, dans son manteau poilu. La foule passait, nul ne la regardait, et même on la bousculait. Enfin la nuit tomba à genoux, laissant ruisseler ses cheveux roux dans les ruisseaux pleins de boue. Dans la mer en mal de marée, sur les prairies, sur les forêts, sur les villes illuminées. L'ours disparut, aspiré par les nombres, avec la foule, avec les ombres confondues dans les décombres. Seuls quelques astronomes, embusqués sous des dômes, virent passer son fantôme. Qu'on te nomme grand ours, tandis que tu poursuis ta course vers les lumières et vers ses sources, que l'on te pare d'étoiles et que du fond de leur geôle les prisonniers te voient passer devant le soupirail. Ours, qu'importe ? Ours de plumes, ours rugissante et bavant l'écume, plus esselante qu'un marteau frappant l'enclume. Ours, qu'importe la fable, et ta piste sur le sable, s'effilochant comme un vieux câble. J'entends des pas lourds dans la nuit, j'entends des chants, j'entends des cris, les chants de mes amis. Leurs pas sont lourds, mais quand naîtra le jour, naîtra la liberté et l'amour. Qu'ils naissent demain ou dans 100 ans, il sera fait de lumière et de sang et renouvellera les 4 éléments. Plus lourde que l'ours dans la cité, par le monde je sens monter la grande invasion, la grande marée. Grand ours au ciel, tu resplendis, tandis que j'écoute dans la nuit les cris, les chants de mes amis. Il suffit de dire que je tente de revenir à Nerval, peut-être à Gongora. Ça, c'est Federico Garcia Lorca, qui a beaucoup parlé de Gongora, qu'on ne connaît pas trop en France. Ou plutôt de repartir de leurs œuvres, pas des chemins différents de ceux qui ont conduit la poésie à travers des paysages si émouvants. jusqu'au domaine contemporain, trop cultivé peut-être. En définitive, ce n'est pas la poésie qui doit être libre, c'est le poète. Voilà la conclusion de cet art poétique.
Merci Sophie pour ce rendez-vous des poèmes du lundi. Le prochain rendez-vous, ce sera le premier lundi du mois de décembre, lundi 2 décembre à 17h jusqu'à 18h. On vous retrouvera, Sophie Laurence, sur notre antenne Fréquence Mistral.
Merci, j'espère que cela n'a pas trop déplu, parce que ça me semble important qu'on connaisse
la poésie.
Oui, parce qu'on en a des idées bizarres.
Non ? Oui. Et c'est vrai que quand on l'apprend à l'école, malheureusement, on l'apprend mal. Puisque
très après, mal.
C'est un bon système d'apprentissage de mémoire, mais on n'a pas la valeur des... Le sens des poésies qu'on apprend par cœur.
J'ai passé des années à aller dans les écoles pour enlever ce ton récité.
Mmh. Voilà, merci Sophie, et à très bientôt.
À très bientôt.